Welcome to LeBigUSA.com.
Bonjour, c'est Jean-Marc du 77. J'espère d'abord que tout le monde va bien. Je souhaiterais savoir si dans la mesure du possible, Monsieur Carvela pourrait nous parler de l'épisode de Yoshimoda. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu de podcast du sur Carvela, savoir son avenir, ce qu'il fait en ce moment, comment il voit le confinement et le futur du motocross et du supercross. D'ailleurs, bon, je vous souhaite le meilleur. Comme dit l'expression des îles, reste à case et protégez-vous bien. À bientôt. Et encore merci pour le big. C'est super.
Hello, salut. Donc, un petit peu de news. Des US, effectivement, le confinement, il est beaucoup moins poussé qu'en France. En ce qui concerne, en tout cas, le sud de la Californie. Le bon côté, c'est qu'on a beaucoup moins de trafic. Le mauvais côté, c'est qu'on ne fait pas quand même tout ce qu'on veut. Mais on peut quand même faire des choses. Donc, en tant qu'entraîneur de motocross, vous imaginez bien que le cross, ce n'est pas la priorité de l'État. Donc, ils ont fermé tous les terrains officiels depuis trois semaines, je crois. Mais on se débrouille. Moi, j'ai quasiment tous mes pilotes qui sont repartis dans leur famille, dans l'Oregon, en Floride, enfin voilà, un petit peu partout pour les ricains. Et puis, j'ai quand même Xylian Ramela qui est là pour quelques mois. Donc, le Supercross s'est arrêté. On était un peu dans le flou. Et puis, a priori... Il y a une semaine, on a entendu parler qu'ils pouvaient refaire tout au mois de mai ou juin, un truc dans ce goût-là. Finalement, il s'avère que ça va peut-être être au mois de mai, mais seulement pour les 22 meilleurs de chaque catégorie. Donc, Zilliane ne fait pas partie, puisqu'il n'a pas marqué de points au championnat. Donc, on a quand même fait du SX, là, cette semaine. De toute façon, il est tellement bon, lui, qu'en 4 secondes et demie... Il se rappelle comment il faut faire. C'est le bon côté quand on est un entraîneur avec un mec qui a dû toucher. Et c'est le cas. Donc, en ce qui me concerne, je suis plutôt tous les jours avec lui en ce moment. Et aussi avec Kylian Auberçon qui fait le sport avec nous et un peu la moto aussi. Donc, ils sont deux Suisses, on va dire. C'est la Swiss team pour l'instant. En ce qui concerne Yoshimoda, effectivement, il est comme les autres, lui. Il est resté un petit peu à l'arrêt parce que son team n'a pas voulu lui passer de moto, des 250 en tout cas pour s'entraîner, comme tous les autres. Steam, Star, Yamaha, tout ça, c'était pareil. Ils ne voulaient pas dépenser de l'argent inutilement dans l'entraînement, sachant qu'ils n'allaient pas savoir ce qui allait se passer. Mais a priori, comme ça se décante, justement aujourd'hui, là, Xylian a roulé avec Joe, en tout cas sur le même terrain, parce que c'est plus moi qui l'entraîne. Hein. Moi, je le vois régulièrement, on a des contacts toujours, mais c'est plus moi son entraîneur. Il avait Jeff Ward, là, il en a trouvé un autre. Donc Honda, manifestement, n'aime pas mes services, puisqu'ils ont voulu qu'ils prennent quelqu'un d'autre. Tant pis, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, Joe, il a fait du 4,50, hein, on l'a vu plusieurs fois faire du 4,50 ici. Il est toujours aussi fort, hein. Il n'y a pas de raison que ça change. Hein. De toute façon, toute la base, il l'a, toute la technique, tout le toucher, tout le feeling, il l'a. Donc, il a l'air plutôt serein. Il m'a dit qu'en outdoor, tout à l'heure, il allait torcher Jérémy Martin. J'ai dit, ah ouais, putain, c'est cool. Si tu avais à faire ça, ça serait plutôt pas mal. Mais bon, en tout cas, voilà, quoi. Donc, c'est un petit peu disparate. Il y a quelques privés qui s'entraînent à droite à gauche. Alors, il y a les tops qui ont leur terrain en Floride ou ailleurs. Et donc, du coup, eux, ils s'entraînent chez eux. Ils ne sont pas tellement confrontés au problème. Mais en ce qui concerne les autres, moi, j'ai 6 ou 7 pilotes. Ils sont un petit peu coincés. Ils sont partis dans leur... ils ont ou un circuit chez eux où ils arrivent à se débrouiller dans les bois. Enfin, c'est pas simple, hein, parce que quand les terrains officiels sont fermés, c'est un petit peu la panade. Alors là, a priori, Glen Helen va rouvrir ce week-end, mais à des conditions, c'est-à-dire pas d'entraîneur, pas de mécano. Donc les mecs, ils vont y aller tout seuls. Donc je pense que ça va pas durer longtemps comme ça, parce qu'ils pourront pas y aller tout seuls, surtout les jeunes. Donc je vais me déguiser en pilote. Ça va être rigolo. Je vais leur parler avec un casque. Ça va être rigolo aussi. Par contre, je vais rien leur montrer, parce que ça, ce serait rigolo aussi, mais pour eux. Donc, pour faire comme ça, c'est bon. Donc voilà un petit peu les news. On fait beaucoup de VTT, donc ça c'est plutôt bien. Du coup, ça me fait descendre un peu les poches que j'ai sur le côté. C'est pas mal. Eux, ça leur fait un petit peu de plaisir. On a quand même pas mal de sensations en VTT. On a beaucoup de descentes ici, enfin des montées avant bien sûr, des descentes après. Donc ça leur fait du feeling. Hein. Je veux pas dire que c'est comme le cross, mais ça leur fait des sensations qui sont sympas. Puis on fait bosser le cardio en même temps, tout en prenant plaisir. Pour les pilotes qui sont partis dans leur famille, Floride, Oregon, Washington, tout ça, avec le confinement, je leur ai fait un programme à distance. Donc, ils ont un programme journalier, à savoir ce qu'ils doivent faire sur la moto, sur le vélo, à la salle, l'étirement, tout ça, un petit peu. Donc, ils sont quand même pas laissés à l'abandon. Je les ai, enfin, pour les quasiment tous, ils ont accepté de fonctionner comme ça pendant un petit moment. Donc, c'est intéressant parce que j'ai un retour toutes les semaines de ce qu'ils ont fait, quelques vidéos sur ceux qui roulent. C'est un peu ce que j'avais prévu de faire il y a quelques années avant de trouver Yoshimoda. Donc voilà, donc c'était juste pour parler un peu de ce qui se passe pendant le confinement. Non seulement c'est compliqué, mais on peut quand même toujours faire un peu des trucs.
Salut tout le monde, salut l'équipe, c'est David de Beauvais. Petite question, moi, j'aurais voulu savoir, il devait y avoir un podcast avec Eric Perronard, savoir si c'était toujours d'actualité ou si c'était tombé à l'eau. Et puis, deuxième, toujours au niveau des podcasts, deuxième question, pour Yannick Carvela, on le voit plus, donc savoir si vous avez des nouvelles un petit peu, ou c'est vrai que c'était intéressant. Voilà, merci de vos réponses, et puis merci de votre soutien, de votre site, tout ce que vous faites, c'est top. Allez, à bientôt, salut.
Alors ça, David, c'est l'exemple typique de deux questions qui tombent à l'eau, et j'en suis désolé. Le podcast Eric Perronard, il est en ligne sur le Big depuis mercredi, donc j'imagine que tu l'as écouté depuis, et ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous invite à le faire. Il est disponible sur le site, mais aussi sur Spotify, Deezer, Google Podcast et Apple. Et enfin, la deuxième question, des nouvelles de Yannick Carvela, il vient juste de répondre à une des questions des abonnés, donc voilà. Donc, désolé, on a toujours un petit temps d'avance sur vous. Enfin, plus particulièrement sur toi. Hein. Désolé, David.
Salut, le Big. C'est GNX de Dordogne. J'appelle parce que j'ai une question. Je viens juste de lire l'article que vous venez de poster sur l'éventuelle reprise du SX le 15 mai 2020. Et j'avoue, je suis assez surpris, si c'est le cas, que les épreuves reprendraient à huis clos. J'aurais bien aimé savoir, avoir un peu plus d'éclaircissement, car je me dis, une organisation comme Feld, est-ce qu'elle va gagner de l'argent sur une épreuve à huis clos? Est-ce qu'elle va même rembourser ses frais? Car il me semble que les droits de télé pour le SX, ce n'est pas non plus les mêmes que pour le foot ou d'autres sports. Il n'y a qu'à voir les pubs entre les manches. Hein. On est souvent sur des pubs liées à la moto et non pas de gros sponsors extra-sportifs. Donc je me dis, est-ce que Feld va vraiment perdre de l'argent? Est-ce qu'il voit ça, mais comme tu expliquais dans l'article, vu que c'est la première épreuve à reprendre après la crise du corona, comme un coup de pub? Si tu avais plus de précision là-dessus, sur les droits télé, est-ce que Feld fait plus d'argent finalement sur les droits télé que sur les entrées, ou s'ils acceptent de perdre de l'argent pour le bien du sport? Allez, merci.
Alors, la reprise du SX le 15 mai à Glendale en Arizona, ça a encore changé, ça serait le 17, mais bon, ça va changer tout le temps, donc c'est peut-être pas la peine qu'on s'attarde sur les dates. Pour les réponses à tes questions, je t'invite à écouter le podcast avec Eric Perronard, il est en ligne, on a déjà parlé de la question précédente. Il est en ligne depuis mercredi, le podcast numéro 90 répond à toutes tes questions. Même si c'est à huis clos, Feld, ils ont besoin de faire ces 7 courses restantes parce que sinon ils ne sont pas payés au niveau des sponsors. Donc ils ont besoin de cet argent. Donc si les spectateurs, c'est l'entrée financière numéro 1, les sponsors c'est numéro 2 et les droits télé c'est numéro 3. Ça veut dire que si on n'y a pas le numéro 1, il faut quand même organiser des courses pour que le numéro 2 paye et que tout le monde s'y retrouve. Donc écoute le podcast avec Eric, on explique tout ça tous les deux et c'est vachement intéressant.
Bonjour à toute l'équipe du Big USA et merci pour le super boulot que vous faites. Alors moi, je me suis cassé 2 fois les ligaments croisés au genou droit et j'aurais voulu savoir quelle était la meilleure orthèse qui me protégerait le mieux. Peut-être que Marvin, avec ses problèmes de genou, ou DV en tant qu'ancien pilote, pourrait m'aider à faire mon choix. Merci d'avance pour votre réponse. Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Ciao.
Salut. En ce qui concerne les genouillères, orthèses, tout ça, moi, je n'ai pas beaucoup roulé ces 10 dernières années. Donc, moi, j'utilisais des Astérix. Mais il faut savoir que J'ai roulé toute ma carrière sans croiser. Que je me les suis pété il y a quand j'avais 13 ans. Donc, je me déboîtais souvent le genou, évidemment. Mais quand, en fait, la meilleure orthèse pour moi, c'était d'avoir des jambes en béton, des quadriceps, comment on dit, ischio, et je faisais beaucoup de renforcement musculaire. Donc, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de genouillère magique, surtout qu'avec la transpiration, avec les protèges, comment on appelle ça, les manches qu'on met dessous là, pour protéger. Ça fait... Les genouillères sont pas là pour. Elles sont là en prévention, quoi. Mais je pense qu'avoir des jambes et être fort musculairement, ça a quand même un meilleur meilleur compromis, quoi. Moi, je sais quand je travaille beaucoup les jambes, mes genoux, ça allait beaucoup mieux. Et c'est vrai que même avec des astérix, je m'étais tordu des genoux parce que, évidemment, j'avais plus de ligaments. Donc, voilà.
Bonjour Lobic, Thierry de Waterloo en Belgique. Voilà, juste une suggestion. On voit plein de vidéos de chutes en moto et c'est très rare de trouver des vidéos avec des gestes techniques. Quand je parle de gestes techniques, c'est comme Stewart au motocross de Daytona quand il prend un tout petit appel pour passer au-dessus d'une autre butte. Donc ça aurait été sympa de trouver des vidéos comme ça qui reprennent ces gestes techniques qui sont des fois hallucinants. Voilà. Bonne continuation à vous et à toute l'équipe. Salut.
Merci Thierry pour ta suggestion. Je ne sais pas trop quoi en faire parce que tu parles de vidéos de crash, mais on n'en passe pas sur le bigusa.com. Tu dis que c'est rare de trouver des vidéos techniques. Ouais, enfin c'est rare, mais encore faut-il chercher un peu sur YouTube, Dailymotion, etc. Et si tu les trouves pas, ben nous on peut pas faire grand-chose dans le domaine. Donc, je suis un peu coincé avec ta question, suggestion, mais voilà, ouais, je vois pas ce que je peux dire d'autre.
Salut le Big, Eric Mont-de-Marsan. Bon, j'espère que vous allez bien. J'avais deux petites questions pour toi, Stéphane. Je voulais savoir déjà si la Outline allait continuer après le déconfinement, quand on aura une vie retour à la normale. Est-ce que, voilà, c'est. Ce petit sujet va rester sur le site, je trouve ça sympa. Donc voilà ma question. Et deuxième petite question, je voulais savoir comment t'étais venu la création du site Le Big. Voilà, pourquoi tu t'étais engagé dans cette voie, pourquoi pas autre chose que la moto par exemple. Et voilà, si tu pouvais me donner quelques petites explications. Allez, à bientôt, la bise.
Eric, première partie de ta question, est-ce que la hotline va continuer après le confinement? Bah oui, tout simplement parce qu'elle avait déjà commencé pendant le Supercross US. Donc il n'y a pas de raison, il n'y avait pas de rapport avec le confinement ou le coronavirus. Donc elle existait avant, elle existe pendant, et donc elle va exister après le confinement. A priori, c'est une rubrique qui marche plutôt pas mal. Ça, il y a quelques gens qui appellent et tout. Et puis nous, ça nous fait plaisir de vous répondre. Donc, on va continuer. Deuxième partie de ta question, pourquoi lebigusa.com? Ça, c'est une grosse, grosse question. Je vais essayer de faire court parce que sinon, ça pourrait prendre des heures. En résumé, je travaillais, j'étais correspondant de presse pour le groupe La Rivière aux États-Unis. Donc le groupe La Rivière, c'est motoverte.com et MX Magazine. Au bout de 9 ans de bons et loyaux services, ils ont décidé de se séparer de moi. Enfin voilà, comment on dit? De me virer, voilà, c'est bien ça. Donc à partir de là, ma femme, ma chère et tendre épouse, m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas la même chose que tu fais avant pour eux, mais tu le fais pour toi? Voilà. Et on est parti de là-dessus. Et le 1er janvier 2011 est né lebigusa.com. Voilà. Pourquoi la moto? Alors, ça, c'est encore une plus grosse histoire. Moi, je suis passionné d'écriture, je suis passionné de journalisme. Et la moto, c'était aussi une de mes passions. Mais la moto en général. Donc la moto, tout ce qui est deux roues. Donc le journalisme et la moto, c'est quelque chose que j'ai réussi à combiner les deux, mes deux passions. Et donc voilà, donc ça a commencé par Moto Journal, après ce que je viens de vous raconter, et maintenant le bigsr.com. Voilà, je crois que j'ai répondu. Alors j'ai essayé de répondre le plus rapidement possible parce que sinon ça va prendre des heures, mais je pense que j'ai répondu aux questions que tu as posées.
Oui, bonjour le Big. Tout d'abord, merci pour le contenu que tu nous proposes. C'est vachement intéressant et ça nous aide vraiment durant le confinement. J'aurais quelques questions d'abord pour DV. Déjà, première question, ce serait de savoir si le circuit où Dylan s'entraîne est exactement au même endroit où toi tu t'entraînais quand tu étais chez Yamaha US. Et savoir aussi pour ma deuxième question, est-ce qu'il y avait beaucoup de différences entre les deux teams Honda auxquels tu as fait partie, si les motos étaient vraiment différentes des teams usines. Et dernière question, savoir ce que Mathieu Lalosse devient. Voilà, merci le Big, merci DV, et bonne continuation, et bon courage à tous pendant le confinement, au revoir.
Oui, le terrain Yam, c'est le même sur lequel je roulais il y a plus de 20 ans. Je pense que la première fois que j'y suis allé sur le terrain, c'était en 1997. Quand j'étais privé, ils m'ont laissé rouler parce que j'étais pilote Yamaha France, donc je roulais un peu là-bas, 17, 18, 19, en tant que pilote de Grand Prix, en faisant les premières épreuves de SX. Et puis en 2000, pour ma première saison full-time, quoi, usine aux US. C'est le même endroit, même terre, même cabane. Hein. On a planté les palmiers à l'époque, ils sont toujours là, ils ont bien grandi. Et voilà. Ce qui concerne les Honda, j'ai fait deux teams privés, moins bon que l'autre évidemment. Moto, très loin d'une moto d'usine, parce que c'était comme on appelait ça dans le jargon des vieux comme moi, c'est plutôt compétition client. Donc c'était avec des pièces du commerce, avec des gens qui... Mais je veux prendre la saison 2007 avec Honda MDK, c'était quand même pas mal. On avait un kit suspension, RG3 qui nous faisait suspension. Le mec, je le connaissais depuis qu'il a commencé chez FMF, depuis 1996, je le connaissais, donc un bon mec. D'ailleurs, qui a travaillé chez Suze pour Pastrana, etc., et qui n'était pas mauvais. Je ne sais pas ce qu'il devient d'ailleurs. Et puis en moteur, on avait un truc fait à San Francisco, là. C'est le team qui avait trouvé une compagnie qui faisait du bon truc, mais moi j'aimais vraiment moteur très très similaire de l'origine, même en Supercross US. Je crois qu'on avait remis les arbres à cames d'origine, puis son origine et tout, donc voilà, de l'essence, enfin c'était vraiment très loin des motos d'usine, beaucoup plus lourde. Je pense qu'on était au moins on était pas loin des 10 kilos plus lourds qu'une moto d'usine, ça c'est clair. Et puis voilà. Donc c'est la différence entre les privés et les... comme maintenant, hein, c'est la même chose. Il y a quand même une grosse différence de matériel. Après, au point de vue de la différence sur la piste, elle n'est pas aussi grande. Elle est peut-être grande en moto, mais sur la piste, pas tant que ça. Puis en ce qui concerne Mathieu Lalosse, il était chez Scott pendant un moment. Il devait être. Il était dans la compétition et puis après il est passé au marketing, je crois. Et puis il s'est barré et je ne sais plus trop ce qu'il fait maintenant. Il me l'a dit, je l'ai vu à Bercy l'année dernière ou l'année d'avant, mais j'ai oublié. Donc voilà, ciao!
Salut le Big, salut tout le monde. J'avais une petite question à vous poser au niveau des pneumatiques en SX et en MX, notamment savoir s'ils utilisaient des chambres à air ou des bimousse tout simplement. Voilà. Et du coup, sur les deux disciplines. Merci de la réponse. Salut tout le monde.
Donc voilà, pour les chambres à air ou bimousse, donc Supercross, c'est chambres à air obligatoire. Hein, donc... La première raison, c'est que si on roulait en bimousse dans les hoops, la mousse arrière, elle se détruirait en suivant, tu sais, parce que c'est des suspensions, c'est tellement béton et que ça tape tellement en suivant dans les hoops. On ne dirait pas, mais ça, comme je disais, ça tape énormément et la mousse, elle se décomposerait en suivant, donc c'est pas conseillé. Ça a été fait sur une course quand moi j'étais avec un pilote, quelques pilotes avaient mis des mousses parce qu'il y avait pas mal de cailloux dans la piste, mais ça a été la seule fois et les mousses tiennent pas le coup. Donc voilà, super grosse chambre à air, puis c'est niveau du feeling aussi, hein, donc voilà. Niveau de motocross, c'est bimousse à l'arrière pour éviter les crevaisons, bien sûr. Et avant, ils mettent, c'est à 99% des pilotes roulent en chambre à air. Donc là, c'est pareil, c'est une histoire de sensation, de feeling. Donc voilà. Après, aux US, il n'y a pas de circuit trop où il y a de où il y a des gros cailloux, peut-être une Adila, mais une Adila, c'est rare, tu vois. Je veux dire, dans ma carrière, moi, et ma carrière n'est pas encore finie, je n'ai jamais vu un pilote en outdoor crever ou perdre une manche parce qu'il avait crevé. Donc, ouais, les circuits aux US sont hyper préparés, hyper mous, donc c'est moins facile de crever. Donc, voilà, j'espère que ça... Ça répond un peu à la question du fan de BigUSA.com.
Oh oh oh, voilà, je suis bien. C'est Pierre de PXE TV. J'appelais donc comme chaque semaine pour poser une petite question. On a vu cette semaine Brad Freeman, donc le champion Enduro GP, présenter sa moto, donc son 300 bêta, avec une double bougie. Donc voilà, il expliquait que ça lui apportait un peu plus de linéarité et met un peu plus de, une meilleure explosion, voilà, donc voilà un tout qui faisait que c'était mieux. Je voulais savoir en motocross s'il y avait des innovations un peu comme ça, un peu spécifiques, voilà, surtout sur le Supercross US. Je sais que voilà, il y a beaucoup de blocs moteurs qui sont travaillés, tout ça, mais s'il y avait un peu voilà des choses un peu spécifiques comme ça, voilà, par exemple là on connaît la double bougie de voilà depuis peu, on connaît aussi les doubles injecteurs dans les moteurs dans les 2,5-4 temps avec un deuxième injecteur dans la boîte à air pour ravaler encore plus voilà d'essence et tout ça. Mais voilà, je voulais savoir si vous connaissiez des petites techniques supplémentaires, des petits trucs un peu spécifiques qui sont vraiment réservés aux professionnels. Mais voilà, c'était par curiosité. Bon ben merci et puis à la prochaine. Bon week-end à tous. La bise au chat.
Donc voilà Pierre, bonne question. Au niveau des doubles bougies, donc moi par rapport à l'expérience que j'ai, on m'avait expliqué exactement le pourquoi du comment à l'époque, mais ça fait un petit peu loin. Donc oui, deux bougies, donc ça aide sur les grosses cylindrées, comme on disait, les grosses cylindrées à partir de 2,5. Donc ça aide à la combustion, qui dit meilleure combustion, meilleur gain de performance. Donc voilà, ça se fait surtout sur les deux temps, parce que les volumes de combustion ils sont plus gros. Donc voilà, après, il y a un autre pourquoi du comment, mais pour être honnête, là, je ne me souviens plus. Donc, mais je pourrais essayer de me renseigner et on verra. Donc voilà, pour le 4 temps, non, ça se fait pas, enfin, pas que je sache. Après, oui, double injecteur, donc la Kawasaki, Denis, elle sort avec le double injecteur depuis 2012. Donc oui, ça, l'angle d'injecteur, les injecteurs, ça change énormément. Attention, c'est pas un gicleur, hein, c'est pas comme on fait sur un détard, je vais mettre un gicleur plus gros ou plus petit, point barre. Je veux dire, l'injecteur, il est régulé par un débit et qui dit débit, il faut faire une cartographie. C'est pas la préparation, c'est pas le Peugeot 103 de l'époque. Donc quand t'écoutais tout le monde, tu mettais un pot, tu mettais un vario et à la fin de la discussion, le Peugeot 103 il montait à 200 km/h. Ça marche pas trop comme ça. Donc voilà, c'est pareil. Quand on fait des choses, tu mets un pot. Il faut peaufiner avec une cartographie, tu mets un piston, c'est pareil, tu mets de l'essence, c'est pareil. Donc voilà, après, niveau des teams, il y a des compagnies comme Guess qui font des doubles injecteurs pour les Honda, les Yam et compagnie. Donc oui, c'est sûr, ça aide niveau performance. Donc voilà, après niveau du team, oui, il y a pas mal d'évolutions, mais ça reste un petit peu secret. Donc en fait, il faut, si vous regardez bien sur les mettons sur la Yamaha, la R1 ou la R6, il y a des ports d'injection qui sont variables, les hauteurs sont variables en fait. Enfin, au niveau des intake manifolds, je sais plus comment dire en fait. Des types d'admission, voilà. Du coup, elles sont variables suivant le régime, elles s'allongent ou elles se raccourcissent. Donc ça se fait aussi dans le cross. Donc voilà, il y a plein d'évolutions comme ça qui se font. Chez Pro Circuit, ça bosse sans arrêt. Des culottes, des armes à cam, des vélos, la forme, le poids, les bielles, faire tout ça, c'est un ensemble de choses qui font la performance, tu vois, qui aident à la performance. Donc voilà, après il y a les manchons d'air au niveau du filtre à air, le Pro Circuit dans le fond. Je vais me répéter, hein, moi je vais dire Pro Circuit parce que c'est un des seuls préparateurs qui vend vraiment des pièces comme ça. Donc oui, certes, il y en a qui vont dire ouais, mais ça vaut cher, et quand je l'ai mis sur ma moto, j'ai pas trop senti de différence. Ouais, mais en fait, c'est, tu vas gagner peut-être un demi-cheval, hein, je veux dire, en bas régime, mi-régime. Donc voilà, c'est comme je dis, c'est un ensemble de choses. Je veux dire, le manchon d'air, il va être pas mal, mais si on ajoute un pot, si on ajoute un piston, si on ajoute des soupapes, c'est tout un ensemble de choses qui vont faire petit à petit, qui vont faire un demi-cheval, 0,2 chevaux, ainsi de suite. Ça va faire des chevaux entiers, et puis ça va aider à changer la caractéristique de la moto. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question, à ta question, Pierre. Donc s'il y a des trucs que j'ai loupés, fais-moi signe et recontacte-nous sur le Big SA.com.
Ouais, salut le Big. C'était pour savoir pourquoi Nathan Pierson n'est plus le mécano de Dylan Ferrandis depuis un ou deux ans, alors qu'il avait l'air d'être bien pote avec, et il est parti de France pour le suivre aux US. Merci.
Alors Nathan Pearson ne travaille plus avec Dylan Ferrandis, c'est pour une raison toute simple, il a trouvé un boulot ailleurs. Il a une bonne proposition de la part de Cooper Webb, qui lui a proposé de devenir son mécanicien d'entraînement en Floride, et Nathan a décidé de l'apprendre. C'est la deuxième année maintenant qu'ils travaillent ensemble, et Nathan avait envie de changer, de voir d'autres choses, de faire autre chose, donc il est installé en Floride. Et il s'occupe de la KTM pendant la semaine. Donc il n'a pas besoin d'aller sur les courses le week-end. Il reste en Floride. Et quand Cooper rentre à la maison et veut s'entraîner dans la semaine, c'est donc Nathan qui s'occupe de la moto. Ainsi se termine la hotline numéro 16. On a tenté de répondre à toutes vos questions. J'espère que ça vous a plu. Sinon, que dire ? Vous écoutez ce podcast samedi. Je vous souhaite un bon week-end. Vous avez toute la semaine après pour poser vos questions. N'hésitez pas, que vous soyez abonné ou pas. C'est le 07 66 13 00 36. Si jamais vous écoutez ce podcast hotline et que vous dites « Tiens, je poserais bien une question » ou alors « Je dirais bien de la merde » ou alors « Je laisserais bien des commentaires ou une critique », n'hésitez pas. C'est anonyme. Vous pouvez même changer votre voix et tout si vous voulez pas être reconnu. Enfin, faites bien ce que vous voulez. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Le Supercross US, on a annoncé le 15, maintenant c'est le 17 et ça changera encore. Mais bon, on essaye de vous tenir au courant au fur et à mesure du mieux qu'on peut. De toute façon, ça va reprendre. Et à un moment, il va bien falloir qu'on sorte de chez nous et qu'on reprenne la vie normale si c'est possible. Donc pour l'instant, on est autour du 17 mai. C'est toujours à Glendale en Arizona. On y sera quoi qu'il arrive. Donc vous pouvez compter sur nous. Il y a peut-être des personnes qui se sont demandé pourquoi il n'y avait pas de rubrique « T'as vu quoi le Big ?» cette semaine. Donc, je peux vous dire tout simplement et en toute honnêteté que je n'ai pas eu d'inspiration. Voilà, ça arrive. Ça m'embêtait de faire une rubrique à moitié pas bien faite, à moitié bâclée, avec des trucs pas intéressants. Et voilà, ça ne me disait rien. Donc, j'ai préféré faire une petite pause. et rebondir mieux pour pour la semaine prochaine. Donc pour ceux qui aiment bien cette rubrique t'as vu quoi le big, je suis désolé, vous n'avez rien à lire cette semaine, mais vous inquiétez pas, j'essaierai de faire mieux la semaine prochaine. Voilà, que dire de plus, je ne sais pas. Je vous souhaite à tous de faire attention, en espérant que tout ça se termine bientôt. Je sais que c'est long, je sais que c'est chiant pour plein de gens, il y a plein de courses qui sont annulées, il y a plein d'événements qui n'existent plus et qui ne seront peut-être pas reportés, etc., etc. C'est chiant, c'est pénible, c'est insupportable, mais bon, comme tout, hein, il faut être patient dans la vie, tout vient à point à qui sait attendre, et si on s'arme de patience, le temps va passer vite, et puis bientôt, tout redeviendra comme avant, enfin on espère. Et puis on reprendra notre petite habitude, le Supercross US, et après l'outdoor. Donc comment, on ne sait pas encore, mais bon, on est là de toute façon tout l'été pour vous donner des infos et faire en sorte que vous ne manquiez rien sur tout ce qui se passe sur le motocross et le Supercross aux États-Unis, mais aussi dans le monde entier. Voilà. Je fais une dernière fois et je vous souhaite à tous une dernière fois et on se retrouve la semaine prochaine pour une hotline numéro 17, enfin celle qui arrive après quoi. Allez, peace, ciao.